Matière à penser, Dominique Rousset.
Et le mercredi soir, dans Matière à penser, nous guettons le monde qui vient au carrefour de l'écologie, de l'économie, de la science, des initiatives sociales, un carrefour très emprunté, aux multiples voies. Toutes ne conduisent pas au pire, mais il faut tout de même y ajouter la dimension géopolitique, très justement pointée par notre invité. Les grands bouleversements climatiques qui affectent la planète Terre et modifient durablement l'environnement de la plupart des régions ont déjà et auront plus encore dans l'avenir un impact très fort sur les décisions des gouvernements en quête de ressources pour leur population. Un nouveau paysage se dessine, les enjeux économiques, sociaux, migratoires sont énormes, la compétition mondiale pour une eau raréfiée ou des terres disponibles sera dure, il faut le savoir, et les plus puissants sont déjà à l'œuvre, ils pourraient bien l'emporter au détriment de populations plus fragilisées. Un danger réel, donc, de confrontation très violente pour éviter la guerre de tous contre tous. Il est grand temps de réfléchir à des choix collectifs, une alliance stratégique mondiale. Heureusement, quelques pistes sont tracées. Bonsoir Jean-Michel Valentin.
Bonsoir Dominique Rousset.
Jean-Michel Valentin, donc je l'ai dit, spécialiste géopolitique et d'études stratégiques, chercheur, centre interdisciplinaire de recherche sur la paix et sur les études stratégiques. Nous choisissons avec vous ce titre, hein, le changement climatique, c'est aussi de la géopolitique. Et le tableau que vous dressez dans un livre récent, Géopolitique d'une planète déréglée, est assez sombre. Diriez-vous que c'est du catastrophisme ? Non, vous vous en défendez.
Moi, la question n'est pas du tout d'être catastrophiste ou alarmiste ou quoi que ce soit, c'est absolument pas mon approche. Mon approche, c'est vraiment une approche stratégique. C'est-à-dire, j'étudie les rapports de force internationaux et la façon dont ces rapports de force internationaux sont actuellement retravaillés par les effets du changement climatique et de la compétition internationale pour les ressources. Il s'agit pas de parler de catastrophe ou d'autre chose, il s'agit de faire un état du monde, et c'est en posant les questions, en posant les problèmes, qu'on trouvera les solutions adaptées.
Et vous pointez donc ce que font les États, on va en prendre quelques exemples assez frappants, pas toujours connus d'ailleurs, et vous faites également vôtre la question de l'anthropocène, qui reste encore un peu débattue, mais de moins en moins l'anthropocène, l'humanité serait devenue donc la principale force biologique, géophysique de la Terre. C'est elle qui est responsable aujourd'hui de ces grandes transformations. Vous publiez d'ailleurs au Seuil qui a fait le choix d'emblée d'une collection appelée Anthropocène.
Oui, absolument. Ce concept d'anthropocène, vous avez tout à fait raison, en fait toujours l'objet de nombreux débats au sein de la communauté scientifique, et tant mieux d'ailleurs. Mais c'est en soi un concept extrêmement puissant parce que, comme vous l'évoquez, c'est un concept proposé par des géophysiciens pour qualifier la période géophysique contemporaine comme étant profondément marquée par les effets littéralement du travail de l'humanité sur les différents éléments de l'environnement planétaire. Partant de là, un certain nombre de géophysiciens mettent en évidence que l'humanité est devenue la principale force géophysique et biologique sur Terre, et donc propose de qualifier cette période comme étant l'Anthropocène. Mais attention, l'Anthropocène, c'est un concept paradoxal. Ça ne veut pas dire que l'humanité est maîtresse de la Terre, pas du tout. Ça veut dire que l'humanité est en train de modifier les conditions écosystémiques dans lesquelles elle s'est développée. Partant de là, ces conditions écosystémiques divergent, et l'humanité va devoir s'adapter à ces évolutions qu'elle a déclenchées de façon parfaitement involontaire.
Absolument. Et qu'elle a du mal aujourd'hui à maîtriser, vraisemblablement. En tout cas, le temps presse. Hein. On parle de quelques décennies et pas de quelques siècles de transformation. Un phénomène qui donc, c'est votre thèse, c'est l'objet de ce travail très, très documenté, je le signale, est tout à fait intéressant à lire parce que vous dénoncez donc ce phénomène qui entraîne une transformation géopolitique importante. Mais question quand même, le monde a toujours été assez dangereux d'une part, et d'autre part, les liens entre les guerres et les développements de la planète, notamment le développement industriel, sont établis depuis bien longtemps. On l'a vécu au 19e et donc les deux guerres mondiales qui ont suivi.
Oui,
Quelle différence faites-vous avec ce qui va se passer ou qui est en train de se passer ?
Eh bien, justement, les différents types de d'évolutions géopolitiques, de conflits, parfois d'une extrême violence, hein, qui ont eu lieu durant le XXe siècle, depuis le début du XXe siècle et tout au long de l'histoire humaine, ont quand même lieu dans des paramètres environnementaux planétaires qui restent stables. Or, la grande singularité de la période actuelle, celle de l'Anthropocène, c'est que justement, nous sommes en train de sortir de ces paramètres auxquels nous sommes, entre guillemets, habitués depuis des dizaines de milliers d'années. En d'autres termes, les tensions géopolitiques commencent à être travaillées en profondeur par des facteurs nouveaux. Ces facteurs nouveaux, c'est le changement climatique, c'est le réchauffement et l'acidification de l'océan, c'est l'appauvrissement biologique des sols. Je pourrais continuer la litanie longtemps, mais la question n'est pas là. La question, c'est que les conditions écosystémiques fondamentales dont nous dépendons commencent à être modifiées et que cela a des effets politiques.
Bien sûr, on va en prendre des exemples tout de suite. Et bien entendu, on va se tourner vers trois grandes puissances et montrer ce qui n'empêche pas que tous les pays sont concernés. Les exemples sont multiples, encore une fois, dans votre livre. Les États-Unis, bien sûr, la Chine, bien sûr, et la Russie, bien sûr. États-Unis, dont vous êtes d'ailleurs le spécialiste, vous insistez beaucoup sur la vulnérabilité américaine, qui était pourtant la première puissance économique, militaire, mondiale pendant tout le XXe siècle, qui est déstabilisée, dites-vous, par le choc environnemental, une véritable offensive climatique qu'elle n'a pas vu venir. Et il est vrai que sur le sol américain, le stress hydrique, par exemple, dans le Middle West, ou les catastrophes comme Katrina ont provoqué de véritables chocs.
Oui, tout à fait. Si nous prenons, par exemple, le cas de Katrina. Donc, Katrina, donc 30 août...
Inondation très violente, inondation, bien entendu, dans la région.
Tempête très violente, donc la fameuse tempête Katrina...
Au sud des États-Unis.
Au sud des États-Unis, sur la Louisiane et en particulier la Nouvelle-Orléans. Et
cette 2005, pardon.
2005, fin août 2005. Et cette tempête extrêmement violente, tout simplement, entraîne la destruction partielle des digues du lac Pontchartrain, digue qui protégeait la Nouvelle-Orléans, ce qui entraîne une gigantesque inondation de la Nouvelle-Orléans. Donc là, déjà, on voit un des premiers effets qui ne font que s'amplifier de ces changements météorologiques qui sont eux-mêmes des signaux du changement climatique, c'est l'interaction entre des événements climatiques extrêmes et les vulnérabilités des infrastructures, en particulier des infrastructures urbaines. Cette vulnérabilité des infrastructures, elle impacte aussi les vulnérabilités sociales, puisque l'inondation de la Nouvelle-Orléans a permis de bien mettre en évidence que ce sont les populations les plus vulnérables, donc les plus pauvres, qui ont été impactées, puisque déjà, ce sont les gens qui n'ont pas pu fuir la Nouvelle-Orléans dans les jours qui ont précédé l'ouragan. Enfin, choc politique et militaire. Dans la mesure où les dégâts sur la Louisiane et la Nouvelle-Orléans ont été tels que toutes les voies de transport et donc les voies d'accès ont été bloquées. Ce qui a rendu impossible l'entrée des agents de l'agence de gestion des catastrophes naturelles américaines pendant 2 ou 3 jours, alors que la Nouvelle-Orléans basculait dans la catastrophe.
Ouais. Et une armée qui s'est trouvée impuissante.
Et l'armée américaine qui s'est retrouvée impuissante à rentrer dans la Nouvelle-Orléans, alors que les hélicoptères des chaînes de télévision du monde entier enregistraient la catastrophe d'heure en heure.
Ouais. Impuissante à protéger sa propre population. Est-ce, Jean-Michel Valentin, parce que ces troupes américaines étaient occupées à l'époque en Irak, en Afghanistan?
Absolument.
C'est la raison pour vous?
C'est pas particulièrement
pour moi.
Non, c'est
aussi leur moyen.
C'est aussi ce que le Pentagone a exprimé avec beaucoup de clarté. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas les moyens, effectivement, d'aider, de secourir leur propre population, puisqu'ils étaient déjà, dans le jargon militaire américain, en overstretch sur l'Irak et l'Afghanistan, ce qui fait que la Maison Blanche de George Bush Jr. a dû, dans l'urgence, embaucher les mercenaires de Blackwater pour une projection de force très localisée sur la Nouvelle-Orléans.
Ouais.
Ce qui veut dire que c'est une force militaire privée qui a dû rétablir un début d'ordre public à la Nouvelle-Orléans. Ça a été un choc énorme pour les forces armées américaines.
Assez humiliant, il faut le dire. Restons un instant avec l'armée américaine, et j'avoue que je l'ai appris en vous lisant. C'est, dites-vous, l'armée américaine qui a, entre guillemets, découvert les grands enjeux climatiques, et elle l'a fait en Irak, à la faveur ou à l'occasion d'une circonstance presque anecdotique. Je la résume, mais vous allez la commenter. Il a fallu mettre des climatiseurs, bien sûr, dans une zone extrêmement chaude, la plupart, une grande partie de l'année. Les climatiseurs, très gros consommateurs de carburant. Il fallait donc des convois de camions incessants pour apporter du carburant pour nourrir ces climatiseurs. Ces convois de camions étaient des cibles privilégiées, évidemment, pour les forces ennemies. Et donc, c'est ainsi que le Pentagone a dû réfléchir, grâce à ceux qu'on appelle les faucons verts, les Green Hawks, à des moyens d'alimenter ces fameux climatiseurs en énergie solaire. Succès. Adaptation.
Succès, adaptation. En fait, ce que vous évoquez là, c'est littéralement la façon dont l'armée américaine a découvert la nécessité de sa propre transition énergétique.
Incroyable. Puis,
puisque, comme vous l'évoquiez très justement, la multiplication de bases américaines sur le sol irakien nécessitait effectivement de très nombreux convois de carburant et de logistique pour alimenter ces bases, puisque l'armée américaine, effectivement, se déplace avec ses climatiseurs. La deuxième division blindée d'Alaska ne tient pas en Irak sans les climatiseurs. On comprend pourquoi. D'où, effectivement, une énorme consommation de carburant. Et, effectivement, tous ces convois qui étaient autant d'occasions de guérilla pour les guérillas présentes en Irak. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que, effectivement, le passage des bases américaines en Irak, littéralement en démarche de transition énergétique et de développement durable, est un succès. L'armée américaine a découvert l'intérêt du photovoltaïque, de l'efficacité énergétique et de toutes ces démarches. Et que lors du retour aux États-Unis sur le sol américain en 2010-2011, l'armée américaine a importé sa transition énergétique sur le sol américain, dans les bases militaires américaines. Mais là, ce que vous évoquez, c'est la découverte de la transition énergétique. La découverte, littéralement, du changement climatique, elle a eu lieu, effectivement, à peu près au même moment, avec la sortie d'un rapport par le Pentagone sur les effets d'un changement climatique abrupt sur la sécurité nationale américaine. Ce qui était très étonnant dans le contexte, puisqu'on était
rapport
quand même...
Rapport en 2003, je crois.
Rapport en 2003, en octobre 2003. Et ce rapport met en évidence que le changement climatique va avoir des effets sécuritaires et géopolitiques tant sur le continent américain que sur le reste du monde, ce qui met en danger et le cycle de l'eau et la production alimentaire américaine, mais aussi les États-Unis étant au centre de la globalisation. Si la globalisation, si le tissu international est impacté par le changement climatique, la globalisation l'est aussi, les États-Unis le sont aussi. C'est là que l'on voit que l'armée américaine, ayant pour mission d'anticiper les menaces, s'est approprié le changement climatique, puisque c'est sa mission.
Et c'est là surtout que l'on est surpris, en 2018, d'apprendre cela, enfin de le savoir, alors que les gouvernements américains successifs, on ne parle même pas seulement de Donald Trump, n'ont pas donné le sentiment de cette prise de conscience. Ça veut dire qu'ils n'ont pas écouté le Pentagone ?
L'administration Obama s'en est quand même préoccupée. Ce qui est extrêmement troublant...
Oui, quand même.
Ce qui est extrêmement troublant... effectivement, en ce moment, c'est que si vous lisez, et c'est très simple à faire, hein, si vous allez sur Internet et que vous lisez les déclarations du secrétaire à la Défense, James Mattis, lors de son audition au Congrès pour être validé en tant que secrétaire à la Défense en mars 2017, pour être secrétaire à la Défense de Donald Trump, il fait tout un développement sur le fait que le changement climatique est bien sûr une menace, qu'il est bien sûr d'origine humaine, qu'il n'y a pas d'ambiguïté à ce sujet, et que ses effets internationaux et nationaux sont tels que le ministère de la Défense américain doit bien entendu s'approprier cette problématique. James Mattis, c'est l'ancien chef d'état-major des Marines. Il a participé à la guerre d'Irak. C'est pas l'image qu'on se fait de l'écologiste. Eh bien, néanmoins, c'est quelqu'un qui a très conscience de ces enjeux parce que, en tant que militaire, il anticipe les menaces.
Ouais. On va voir ce qu'il en est de la Chine et de la Russie, qui sont évidemment mentionnés, ou en tout cas cités dans ses rapports et dans ses réactions, notamment de James Mattis. Il y a d'autres exemples, les plantations de cannabis aux États-Unis, ça aussi c'est extraordinaire que vous donnez, qui sont très consommatrices d'eau. Elles sont complètement dans l'illégalité totale. Ça se passe en Californie, où le manque d'eau est criant, comme on le sait, hein, avec la sécheresse et les incendies dramatiques. Et c'est une réponse à la crise de 2008. Les gens ne savent plus de gros problèmes et vivent avec le cannabis, là aussi, mal maîtrisé, une violence climatique et une violence sociale.
Alors, la Californie est effectivement en train de devenir une espèce de laboratoire de l'énorme risque qu'est le changement climatique dans ses différentes, dans ses différentes dimensions. Vous évoquiez la multiplication des plantations clandestines de cannabis, et littéralement d'initiatives privées, hein, effectivement, de gens qui ont été complètement rincés par la crise de 2008 et qui se mettent de façon totalement illégale au cannabis. Sinon qu'il y a une crise de l'eau en Californie, que ces plantations nécessitent
beaucoup
d'eau, et qu'il y a des tensions violentes, hein, entre ces petits producteurs et les grands réseaux mafieux pour la consommation d'eau. Y a une espèce de guerre mafieuse de l'eau qui a lieu en Californie du Sud. Mais la Californie, on se rappellera que une grande partie de l'année dernière, la Californie a été ravagée par des incendies absolument gigantesques, eux aussi largement induits par les effets du changement climatique.
Ouais, on voit donc cette vulnérabilité américaine et la position des autorités qui n'est pas simple, car elle est à la fois entre le déni, dans certains cas, on l'a vu, mais le besoin aussi de rassurer une population un peu déboussolée. C'est ainsi que vous l'analysez ?
Alors.
Déboussolé de voir sa puissance tellement controversée.
Là, les États-Unis sont effectivement dans une période extraordinairement complexe, puisque d'un côté, la Maison-Blanche, le président Trump assume une posture climato-sceptique très forte, mais en même temps, les autorités fédérales et locales et régionales anticipe certains effets très fortement. On se rappelle qu'en septembre, le Texas a été ravagé par l'ouragan Harvey, mais que 10 jours plus tard, les autorités de Floride ont remarquablement géré l'ouragan Irma. Donc, il y a là des jeux, une circulation des idées sur le changement climatique qui est terriblement complexe.
Got found 3 penguins and a bear got drowned.
France Culture, matière à penser, Dominique Rousset.
Et le changement climatique, c'est aussi de la géopolitique. C'est ce que nous démontre Jean-Michel Valentin, mon invité ce soir, spécialiste donc d'études stratégiques. On vient de parler de la vulnérabilité américaine, de sa prise de conscience de ces éléments-là. Les États-Unis, on va en parler tout de suite maintenant, c'est on va parler de l'Arctique. Curieusement assez absent de ce grand enjeu qu'est aujourd'hui l'Arctique, fonte des glaces en été, hein, une configuration très nouvelle, Jean-Michel Valentin, avec une disparition annoncée d'ailleurs en été de la banquise avant 2030. Hein, beaucoup de spécialistes se mettent d'accord là-dessus. Les États-Unis curieusement absents de cet enjeu capital dont les Russes s'emparent et dont la Chine n'est pas très éloignée.
Oui, absolument. La zone arctique est profondément déstabilisée par le changement climatique. Comme vous l'évoquiez très justement, la banquise arctique estivale ne cesse de régresser, ce qui commence à ouvrir les fameux passages du nord-ouest et du nord-est. Or, effectivement, les États-Unis n'ont développé ces 50 ou 60 dernières années que très très peu de capacités d'intervention en Arctique. Alors que le Kremlin et les autorités scientifiques russes étudient ce phénomène avec beaucoup d'attention depuis le début des années 2000, et les autorités russes ont bien saisi que cette ouverture du passage du Nord-Est, c'est-à-dire l'ouverture d'une voie navigable entre le détroit de Bering et littéralement la Norvège, pouvait être une formidable opportunité. Et donc depuis quelques années, les autorités russes se livrent à une gigantesque politique d'aménagement du territoire du nord de la Sibérie.
Qu'est-ce qu'ils font? Ils installent des bases?
Ils installent beaucoup de choses. Ils réhabilitent les bases militaires de l'époque de la guerre froide sur l'archipel sibérien. Ils développent les ports installés le long de la côte sibérienne. Ils en créent d'autres, ils en réhabilitent d'autres, ce qui a deux avantages. Premier avantage, donc, ça permet de créer une authentique voie maritime entre le détroit de Bering et la Norvège, c'est-à-dire entre l'Asie et l'Europe du Nord.
Bien sûr.
Il faut constater que les armateurs chinois ont parfaitement identifié l'ouverture du passage du Nord-Est et que les convois chinois sont de plus en plus nombreux à utiliser ce passage. Mais attention, on reste dans un environnement extrême. Les Russes en sont totalement conscients et donc mettent à la mer une nouvelle génération de brise-glace nucléaire de façon à garder le passage. C'est la voie navigable ouverte 24 heures sur 24, 12 mois sur 12, hiver comme été, de façon à permettre aux convois de passer de Bering vers la Norvège et de la Norvège vers Bering constamment.
En déplaçant, c'est extraordinaire, en déplaçant des icebergs gigantesques et dangereux, bien entendu, de parfois 1 million de kilomètres carrés.
Million de tonnes.
Un million de tonnes, ça vous représente un volume absolument considérable.
Il s'agit effectivement d'expérimentations qui sont menées sur le déplacement d'icebergs pour rendre la route moins dangereuse, mais aussi pour rendre possible l'installation de plateformes pétrolières et gazières sur cette zone arctique, parce que, tout simplement, le réchauffement de la région commence à rendre accessibles des gisements gaziers et pétroliers extrêmement importants qui n'étaient pas atteignables jusqu'à présent. Et là aussi, il faut bien voir que les grands gaziers russes, comme Gazprom, et les pétroliers russes comme Rosneft, commencent à développer de nombreuses exploitations, et qu'ils le font aussi avec des entreprises chinoises, et que de nombreuses entreprises asiatiques commencent à converger sur le nord de la Sibérie et la zone économique exclusive maritime russe pour développer des exploitations gazières et pétrolières.
À quoi il faut ajouter, bien sûr, une militarisation de la zone ?
Oui, tout à fait. Les autorités russes traduisent l'importance de cette zone en installant énormément de bases militaires, en multipliant les manœuvres militaires, maritimes et terrestres dans la zone, de façon à marquer leur souveraineté sur cette zone. C'est pas tellement qu'il y ait des enjeux de guerre, c'est pas la question. La question, je pense, c'est que les autorités russes marquent que cette zone est de leur souveraineté.
Ouais. Août 2007, tout un symbole, un drapeau en métal,
oui,
installé par les Russes au fond de l'eau, un petit clin d'œil quand même au premier pas sur la Lune.
On pourrait même dire un gros clin d'œil.
Des États-Unis.
Et effectivement, parce que vous avez tout à fait raison. En août 2007, un bathyscaphe de l'Académie des sciences russes dépose un
drapeau
russe en métal inoxydable sur le fond de sur le fond sous-marin de la zone arctique russe. Effectivement, vous avez tout à fait raison. En référence au dépôt du drapeau américain sur la Lune, ce qui permet aussi pour les autorités russes de marquer l'importance qu'elles accordent désormais à la zone arctique.
Clairement, oui. Est-ce qu'on peut dire quand même au passage que cette fonte de la banquise arctique, en été, le précise, l'hiver pour l'instant, les choses ne bougent pas trop.
Si, mais ça bouge même beaucoup.
Plus lentement.
Non, mais simplement, la banquise se reconstitue, même partiellement, même de façon fine, mais elle ne disparaît pas en hiver. Il est très important de marquer cette différence.
Tout à fait. La banquise arctique, donc, il faut le dire, c'est un des très grands régulateurs du climat mondial. Pourquoi c'est si important ? Parce qu'elle a ce pouvoir de réflexion de l'énergie, de la lumière du soleil.
C'est ça.
Je l'explique très, très rapidement. Et que si cette énergie, cette lumière régresse, parce que la banquise fond, eh bien, l'énergie solaire sera absorbée par l'océan, d'où réchauffement des eaux, montée des eaux, on va y venir avec la question de l'Asie. Et évidemment, là encore, un grand bouleversement physique et géopolitique. Car la Chine, vous en avez parlé, est présente en Arctique, vous avez dit pourquoi, mais qu'elle a de son côté lancé un autre programme, gigantesque également, ça date de 2013, qu'on appelle la route de la soie. On sait bien entendu que l'ancienne route de la soie date de l'Antiquité, qu'elle a duré jusqu'au XVIe siècle pour faire circuler d'Asie en Europe toutes les ressources précieuses. Cette nouvelle route de la soie, c'est pas tout à fait une route d'ailleurs, puisqu'elle passe par beaucoup de canaux et de moyens, est tout à fait impressionnante. Et là encore, il s'agit d'accéder aux ressources, quitte à maîtriser au passage un assez grand nombre de pays pour nourrir le 1,4 milliard de Chinois.
Alors effectivement,
alimenter surtout son développement.
Absolument. La nouvelle route de la soie, c'est un axe essentiel de la politique étrangère chinoise. Il s'agit de la création d'une gigantesque série d'infrastructures de transport qui traversent l'Asie.
Combien de pays ça fait ?
Actuellement, si je ne m'abuse, il y a plus d'une centaine de pays qui sont concernés d'une façon ou d'une autre. Et donc, ces différents pays donc, sont traversés par des infrastructures routières, ferroviaires, aériennes, maritimes. Et comme vous le faisiez remarquer, la route de la soie passe maintenant effectivement par l'Arctique, puisque, comme on l'évoquait, l'Arctique est bouleversé. Et les convois chinois donc, peuvent aller maintenant jusqu'en Islande. Il y a eu un sommet du Conseil de l'Arctique qui a permis l'intervention d'un certain nombre d'armateurs chinois il y a déjà plus de 2 ans. Donc c'est aussi comme cela que la Chine a intégré le Conseil de l'Arctique en tant que membre observateur, en tant que, l'expression est jolie, Near Arctic Nation, c'est-à-dire la Chine devient une puissance presque arctique, alors qu'effectivement, le réchauffement de la zone, en faisant fondre le Groenland, risque fort de participer à l'élévation du niveau de la mer.
Comment ça se passe avec les pays traversés? Ils font une série d'accords bilatéraux?
Alors, effectivement,
parce
la nouvelle route...
Ça peut être intéressant pour ces pays aussi.
Effectivement, la nouvelle route de la soie, la philosophie de la nouvelle route de la soie, c'est vraiment une philosophie bilatérale. C'est-à-dire que les Chinois proposent des accords de développement, je dis les choses grossièrement, proposent des accords de développement en échange d'accès aux ressources. Simplement, cette nouvelle route de la soie, elle est en train de se mondialiser rapidement, puisque, comme vous l'évoquiez, les besoins du 1,4 milliard de Chinois sont absolument énormes. Et c'est en mai dernier, d'ailleurs, que le premier train Londres-Yiwu est arrivé à Yiwu, je crois d'ailleurs rempli de whisky, en mai dernier. C'est tout à fait intéressant de voir que les Chinois comprennent quand même de mieux en mieux qu'il est nécessaire de faire en sorte que les pays avec lesquels ils contractent ne soient pas épuisés. Parce que si les pays sont épuisés, très vite, la route de la soie ne servira plus à grand-chose. Donc c'est un processus absolument immense qui est en mutation permanente.
Oui, et des accords bilatéraux, évidemment, qui arrangent bien la Chine, surtout dans sa rivalité avec la Russie. Au passage, on peut constater peut-être une fois de plus le déclin du multilatéralisme.
La rivalité avec la Russie, je ne sais pas, parce que les Chinois achètent des quantités considérables de gaz à la Russie. De nouveaux pipelines sont en cours de finalisation. Et justement...
Oui, il y a de très gros contrats à gazier pétrolier.
Il y a d'énormes contrats de près de 700 milliards de dollars entre les deux pays. La Chine a parfaitement compris la nécessité de sortir du charbon pour sortir de ce qu'on appelle son airpocalypse. Mais une transition énergétique, ça ne se décrète pas. Ils ont besoin de passer au gaz. Et le gaz, ils l'achètent aux Russes. Donc en fait, il y a une coopération sino-russe très importante qui se développe. Et véritablement, on est dans une période de profonde mutation.
Autre région du monde, Jean-Michel Valentin, que vous explorez, on passe un petit peu plus vite sur les rapports de la Chine, par exemple, avec chacun des pays concernés par cette fameuse route de la soie, c'est l'Asie du Sud qui, de l'avis général, est quand même une région en grand danger. Vous parlez-vous d'hypersiège, c'est une expression assez forte, c'est-à-dire, au fond, ce sont des populations qui sont encerclées. Le siège, c'est l'encerclement.
C'est ça.
Avec le syndrome du Bangladesh, bien connu, région très submersible, et la grande partie de sa population vivant sur les côtes, on voit bien le danger.
Oui, absolument.
Et l'Inde est tout à côté.
C'est l'Inde et la Birmanie. Et effectivement, le Bangladesh est sans doute un des pays les plus pauvres au monde, avec une population de plus de 150 millions de personnes, qui est au niveau de la mer. Or, la mer monte. Ce qui est en train d'avoir des effets absolument catastrophiques pour le monde rural et l'agriculture du Bangladesh, ça déclenche un exode rural absolument gigantesque, une crise de l'eau tout aussi gigantesque, puisque les nappes phréatiques sont en cours de salinisation. Et une des grandes craintes, c'est que la déstabilisation climatique du Bangladesh ne déclenche de gigantesques flux de ce que l'on appellerait des climato-réfugiés. Le Bangladesh est littéralement en état de siège du fait du climat. Et cet état de siège, il se traduit aussi par le fait que l'Inde a installé un mur de barbelés de 4 mètres de haut sur 4000 km de long, largement militarisé. L'Inde annonce que c'est pour contrôler les éventuelles sorties de terroristes du Bangladesh. Il paraît néanmoins que ça rendrait des flux de population plus difficiles. Il faut avoir à l'esprit que des grands flux de réfugiés. L'Inde est quand même un pays pauvre, ça serait quelque chose de déstabilisateur pour l'Inde. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a des gentils et des méchants.
Bien
Il
sûr.
S'agit de dire qu'il y a des situations géopolitiques tendues.
Et vous avez parlé de la Birmanie, on sait qu'un grand flot de réfugiés vient de Birmanie vers le Bangladesh déjà
éprouvé. Ce qui a des effets, là aussi, politiquement chargés.
Bien sûr. Hypersiège global. Et nous, dans tout cela, l'Europe ?
L'Europe,
dans toutes ces configurations de géopolitique que vous évoquez ?
L'Europe est un cas quand même vraiment intéressant.
On n'est pas dans le déni, pour le coup.
On n'est pas dans le déni. Ça, c'est déjà en soi. C'est vraiment, déjà, quand on fait une carte de la conscience de l'enjeu, c'est très fort. Mais d'autre part, l'Union européenne et nombre de ses États membres, comme la France d'ailleurs, sont vraiment moteurs sur la prise de conscience des enjeux du changement climatique, sur le soutien à la recherche. Et un des enjeux majeurs, c'est vraiment une évolution des mentalités collectives sur ces enjeux. Et l'Europe joue un rôle tout à fait moteur sur cette évolution des mentalités.
Oui. En clair, Jean-Michel Valentin, vous nous dites en conclusion de votre travail qu'il y a deux scénarios possibles. Celui que tout le monde peut redouter, la guerre de tous contre tous, les ressources étant de plus en plus rares. On voit bien comment les jeux peuvent basculer dans la violence. Et puis, une alliance stratégique, évidemment, vous appelez de vos voeux pour atténuer, non pas supprimer, mais atténuer les effets de l'anthropocène, prévenir justement l'émergence de conflits, identifier les zones de crise. Et là, vous donnez ce rôle à l'Europe. Pour l'instant.
Mais écoutez, c'est un enjeu stratégique absolument majeur et l'histoire nous montre bien que parfois des très grands moments de grandes tensions géopolitiques permettent aussi de vraies grandes alliances stratégiques. Et le changement climatique peut parfaitement entraîner cette grande alliance stratégique pour l'atténuer. Le 21e siècle peut aussi être le siècle du grand espoir.
Quelques exemples, allez, pour l'illustrer et nous redonner un peu d'optimisme.
Mais écoutez, on ne cesse de dire, et à juste titre, par exemple, que la finance internationale est un acteur extrêmement puissant et un acteur, justement, de la consommation d'hydrocarbures qui a un rôle très important dans le changement climatique. Or, on voit aujourd'hui des acteurs majeurs de la finance internationale, comme le groupe BlackRock, qui deviennent littéralement militants pour la prise en compte du changement climatique. De même, les grands groupes d'assurance et de réassurance sont aussi extrêmement puissants et commencent à être extrêmement militants dans ce domaine. Et des initiatives, par exemple, comme le One Planet Summit organisé par le président Macron, permettent aussi un partage de la réflexion au niveau, justement, des décideurs politiques et économiques. Et c'est là un enjeu tout à fait majeur. C'est vraiment en prenant conscience de l'enjeu et de sa dimension stratégique que l'on pourra y répondre.
On a quelques autres exemples, alors plus localisés, au Moyen-Orient, oui. Vous le citez, oui. Un projet commun. Israël-Jordanie.
Un projet commun Israël-Jordanie, effectivement, pour creuser un canal entre la mer Rouge et la mer Morte, de façon à réalimenter la mer Morte en eau, de façon justement à pouvoir maintenir les populations, les sociétés, les systèmes agricoles et le microclimat de la zone.
Alors que c'est en dessalinisant, c'est ça ? Quel est leur objectif ?
En dessalinisant une partie de cette eau. Et d'autre part, actuellement, la mer Morte est en train de reculer rapidement, ce qui bouleverse tous les équilibres écosystémiques et hydriques de la zone. Donc ce canal montre aussi que dans une zone qui est saturée de tensions, la coopération est possible. La coopération face aux effets de l'anthropocène, elle est tout à fait possible. Et ce, malgré les tensions qui existent. Donc, l'espoir est là. Il faut juste construire dessus.
Et vous citez, car il y a quelques références littéraires, et même cinématographiques d'ailleurs, vous démarrez avec le film d'Eisenstein, Alexandre Nevsky, hein, où les armées venues à la rencontre de paysans complètement désarmés sont engloutis par la glace qui fond.
Absolument.
Tout un symbole, et vous concluez avec la guerre des mondes.
Oui.
D'H.G. Wells, et D.H.G. Wells est là.
Et absolument.
Vous c'est dites que ça pourrait se passer autrement.
C'est-à-dire que non seulement ça pourrait se passer autrement, mais H.G. Wells montre que les Martiens viennent sur Terre, dévastent tout, mais ne sont pas adaptés aux microbes terrestres et ils meurent. Il ne faut pas que nous-mêmes nous devenions nos propres Martiens. Et c'est pour ça qu'il faut que nous nous adaptions à ces nouvelles conditions. Et il faut aussi que nous les atténuions et je suis absolument convaincu que nous allons y parvenir.
On aimerait bien rester sur cette grande note d'espoir grâce à vous, Jean-Michel Valentin. En fait, maîtriser l'Anthropocène.
Maîtriser l'Anthropocène.
Par le développement durable.
Par le développement durable, par la transition écologique et par la prise de conscience de l'importance absolument stratégique de ces démarches.
Merci infiniment. Géopolitique d'une planète déréglée, le choc de l'Anthropocène. Ce livre est paru dans la collection Anthropocène des éditions du Seuil. Jean-Michel Valentin, on trouvera d'autres ouvrages de votre part, Écologie et gouvernance mondiale, qui est un peu plus ancien, mais pas si démodé encore, où Guerre et nature, l'Amérique se prépare à la guerre du climat, la 2013. Et vous faites allusion, bien sûr, à cette prise de conscience dont nous avons parlé. Beaucoup d'autres titres à vous suggérer, si vous le souhaitez, autour de ce sujet, évidemment, capital. Merci à notre petite équipe. Allez sur notre site France Culture, bien sûr, le site de Matière à penser. On vous recommandera tous ces ouvrages grâce à Laurent Genepin qui s'occupe de la préparation et de la documentation de notre émission. Venez nous retrouver aussi sur Twitter, @DomRousset. Et merci à notre équipe d'aujourd'hui, Christine Robert, qui réalise l'émission en compagnie d'Alain Joubert. Très très bonne soirée à tous. On se retrouve mercredi prochain. Suite à suivre après nous, ce sera Création On Air.